Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Et ben voilà, il est 9h40, nous sommes sur France Inter et c'est un nouvel Instant M qui démarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il est des cauchemars sur lesquels on ne peut soit, parfois, pas mettre de mots. Il est des drames dont en famille, parfois, on ne peut pas parler. C'est l'histoire de tant d'enfants abusés. Alors comment imaginer que ces enfants-là, devenus grands, pourront un jour converser avec l'homme qui les a violés? Comment se représenter ce face-à-face défiant les bornes et les repères d'une norme pluricentenaire ayant fixé le statut de la victime et le statut de l'agresseur? Comment envisager que dans ces paroles échangées, l'un et l'autre puissent chercher à se reconstruire? Comment enfin penser que de tant de silence et d'interdits, on puisse faire un film pour la télévision, rendre public, médiatique, ce qui est en soi si difficile à dire?
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Mayana Bideguin.
Bonjour Sonia.
Soyez la bienvenue. Vous êtes absolument rayonnante. Votre film m'a bouleversée. Il y a, je le dis tout de suite, une partie de ce film que nous ne raconterons pas dans l'émission ce matin. Donc, il va vous falloir le regarder demain soir à 20h50 sur France 5. Ça s'appelle Rencontre avec mon agresseur. Il est suivi d'un débat, car nous allons parler ce matin de justice restaurative, dit-on en France, de justice réparatrice, disent les Canadiens. On va surtout parler de votre histoire. Comme c'est votre histoire et que ce film est raconté à la première personne, je le dis, il est plein de moments difficiles. Ce matin, nous allons passer des extraits difficiles. Peut-être que tout le monde ne peut pas les entendre. Dans ces cas-là, voilà, on baisse le son, on s'éloigne un peu de la radio, on bouquine, on fait autre chose et puis on revient sur France Inter un peu plus tard. Voilà. Ce jour-là, c'était il y a 33 ans, Mayana Bideguin. C'est un jour qui a marqué au fer rouge votre famille, votre sœur a besoin de le raconter, hein, encore et encore. Votre mère, Liberdad, a besoin de le raconter elle aussi.
Tout d'un coup, tu arrives en pleurs, avec ta bouche toute sale. Je me suis dit, et tu pleurais vraiment, c'était terrible. Je me suis dit, elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pris là et je ne savais pas. La première chose, ça a été te laver et te faire rincer ta bouche. Et je t'ai lavé, je t'ai ravillé et tu t'es mis au fond de ton lit. Comme si tu voulais te mettre dans une grotte, quelque chose très, très, très caché, comme si tu devais cacher des choses ou comme si tu voulais te défendre. Après, quelques heures après, je me disais, c'est comme si elle voulait se mettre de nouveau dans mon ventre.
Dans mon ventre. Vous aviez quel âge, Mayana ?
J'avais 7 ans.
Vous aviez 7 ans. Faire le choix de rendre public, vous-même, hein, vous le verbalisez dans le film, c'est rouvrir une boîte familiale.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et oui, c'était un choix qui n'était pas forcément évident, en fait. Mais à partir du moment où j'ai entamé cette démarche, où j'ai retrouvé la trace de celui qui avait été mon agresseur, on en a parlé avec ma famille. On a parlé du fait que je souhaitais aller à sa rencontre. C'était pas du tout quelque chose d'évident, mais ils m'ont soutenue. Ce qui m'est arrivé à l'époque.
Ils vous ont soutenu, sont dans le film, ils parlent devant la caméra. Enfin, c'est ça. C'est alors que vous ne cessez de dire tout au long du film que cette famille, elle est pleine de silence autour de ce qui s'est passé ce jour-là.
C'est-à-dire, il y a des silences qui ne sont pas des silences hostiles. Il y a des silences qui sont utilisés comme moyen de réparer. C'est un moyen aussi pour ma famille, mes
J'avais
parents.
J'avais ma délicatesse, dit votre maman.
Voilà.
C'est très joli.
Voilà. Mais c'est exactement ça. Elle, pour elle, elle m'a entendue, elle m'a écoutée et elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que cette blessure qui m'avait été infligée soit soignée. C'est-à-dire, on est allé voir la police, il y a eu un procès, il y a eu condamnation. Mais après, comment faire pour que moi, petite fille, je retrouve la confiance d'aller vers le monde, d'avoir toujours ma curiosité envers l'autre et de pas rester sur cette image bloquée que les relations entre femmes et hommes, c'est une relation de soumission, de violence, que l'acte sexuel, c'est une déchirure. Donc tout ça, pour elle, au-delà de... C'était pas m'infliger un silence, c'était éviter de retourner le couteau dans la plaie.
Ouais.
Ouais. Et avec mes sœurs, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que elles savaient qu'il m'était arrivé quelque chose. On n'en a pas eu le temps de dire à l'époque, c'était pas le moment ni de dire exactement comment ça s'était passé, ce que j'avais ressenti. Mais ce n'est que mais des dizaines d'années plus tard qu'on a eu l'occasion de commencer à en parler.
Alors, votre agresseur avait 19 ans à l'époque. Dans le film, vous l'appelez O. Oui. Comme, voilà. Votre entretien a été enregistré d'un commun accord. Extrait.
Dans cet ascenseur, la porte s'ouvre. Tu vois cette petite fille?
Ouais.
Tout de suite, comme ça, te vient l'idée. Je vais l'attraper. Et je vais faire ce que peut-être tu avais déjà imaginé précédemment.
Je sais pas si ça s'est passé comme ça. C'est... Effectivement, c'est en quelques dixièmes de seconde que la chose se produit. Je suis vraiment dans cette part de moi, de toute puissance. C'est-à-dire qu'il y a, l'humain n'a pas de valeur, il n'y a pas de réflexion particulière. C'est vraiment l'instant, cette toute puissance, j'appelle une puissance infantile. Je veux.
Moi, comme téléspectatrice, j'ai été hyper heurtée que vous le tutoyez. C'est la première question. Je me suis dit, mais elle le tutoie? Comment ça se fait que vous le tutoyez?
En fait, on s'en est mis d'accord tout de suite dans le début de la conversation. Ah ouais. Et moi, je n'aurais pas imaginé autre chose que ce tutoiement. Ah oui. Je ne pouvais pas imaginer autre chose que ce tutoiement. Pour moi, en fait, le vouvoiement, il y a quelque chose qui me retient beaucoup dans le vouvoiement parce que c'est justement une mise à distance, parfois un rapport de soumission, justement, ou au contraire de respect entre deux personnes qui ont ces rapports-là établis, soit par la société, soit vraiment par un vécu commun qui fait que... Mais moi, dans ce cas-là, avec lui, je ne pouvais pas employer le vous. Et lui non plus d'ailleurs, et c'est pour ça que très vite, au tout début de cette conversation, il m'a proposé, mais j'étais déjà d'accord avant qu'il me le propose, qu'on se tutoie, parce qu'il pensait aussi de son côté que ce qui s'était passé entre nous, c'était une intimité qui s'était installée de fait, brutale évidemment, mais il espérait, à la fin de notre conversation, pouvoir passer au vouvoiement pour réinstaurer la distance qui n'aurait jamais dû être.
Ce dialogue, je l'ai imaginé des centaines de fois, vous le dites dans le film. Alors, il faut que vous expliquiez quel est le processus pour arriver à un tel entretien. C'est très long et c'est beaucoup de travail des deux côtés.
Oui, c'est très très long. En fait, au tout départ, quand j'ai souhaité mettre en place cette démarche, c'était même pas possible, en fait.
Vous êtes la première en France à l'avoir effectué.
Voilà, c'est ça, avoir lancé la démarche d'une médiation restaurative directe. Entre le moment où j'ai contacté l'Institut français de la justice restaurative pour la première fois, ça c'était en 2015. Et on a commencé à faire les premiers pas du protocole, c'est-à-dire mes rencontres avec une médiatrice, tout début 2017. Et donc entre le début 2017 et la fin 2017 où a eu lieu la rencontre, tous les mois à peu près, j'avais rendez-vous avec cette médiatrice, Noémie Micoulet, qui nous a reçus, qui nous a accompagnés. Alors chacun de notre côté. Hein. D'abord c'est moi, puisque c'est moi qui ai entamé la démarche et qui ai demandé à avoir cette rencontre. Donc elle m'a rencontrée. Chaque fois qu'on avançait au fur et à mesure... Je devais déterminer quels étaient mes objectifs, quelles étaient mes attentes. Il fallait aussi beaucoup travailler sur et qu'est-ce qui se passerait s'il me disait quelque chose qui me choque ou qui me convienne pas du tout ou qu'il refuse de répondre à mes questions. Il fallait que je puisse envisager chacune de ces possibilités.
On va en écouter un autre extrait justement.
Je comprends pas tout ça. Hier, je ne comprends pas ça. Je l'ai fait, Mariana. J'en suis désolé. J'étais un jeune homme. Je prends ma responsabilité. Je l'ai fait, Mariana. Et tu n'as aucune forme de responsabilité, c'est-à-dire que j'ai réellement profité de cet instant où tu es une petite fille sans aucune défense, c'est-à-dire que tu ne te reproches jamais, par pitié, ne te reproche pas de n'être pas défendue.
T'inquiète pas, par rapport à ça, je ne me reproche rien.
Je ne me reproche rien et ce n'est pas ça que je veux savoir. Et c'est la question obsessionnelle qui revient du début à la fin de votre film, Mariana Bideguin, car ce film n'est pas du tout un film militant pour la justice restaurative qui est encore très timide et balbutiante en France. C'est un film qui n'est fait que de questionnements du début à la fin. Et vous vous dites... Pourquoi ce jour-là? Pourquoi moi dans cet ascenseur? Pourquoi à cette heure-là? Pourquoi?
Je pense que c'est le point commun à, de toutes les victimes. On a besoin de comprendre. Oui. On a besoin de faire sens. Ça permet de continuer, de reconstruire aussi un monde qui a été brisé à un moment donné. Mm-hmm. Et moi, c'est vrai que cette question du pourquoi, elle m'a hantée toute ma vie. Je savais que la justice pénale avait fait son travail, puisque cette personne-là qui m'avait fait du mal, elle avait été incarcérée. Et moi, en grandissant, quand j'y repensais à ce qui m'était arrivé, je me disais, pourvu qu'il ait compris, pourvu que plus jamais il ne recommence. Mais toujours, il y avait la question de, mais en fait, mais pourquoi c'est arrivé? Je n'ai rien fait pour provoquer. Et j'étais une petite fille, j'étais là devant cet ascenseur et c'était un hasard le plus complet que je sois là, puisque en fait je suivais une amie à moi qui m'avait promis d'aller chercher des bonbons et elle est rentrée chez elle, et comme je ne connais pas sa famille, je suis restée sur le perron devant les ascenseurs. Et j'étais pas censée être là. En fait, on était censé aller au cirque ce jour-là avec mes sœurs.
Votre grande sœur dira, toute ma vie depuis, j'ai détesté le cirque.
Exactement.
Parce qu'on y a été quand même.
Voilà. Elle, mes deux sœurs y sont allées. Ouais. Et moi, je n'y suis pas allée. Ouais. J'étais restée.
Alors, vous partez au Canada, Mayana Bidguin. Et c'est intéressant parce qu'on sent que ce voyage au Canada vous a fait du bien.
Ouais.
Dans le film, le Canada arrive au bon moment aussi. Parce qu'on rencontre des gens qui sont pleins de chaleur, d'humanité, qui sont très sympathiques et qui prennent à bras le corps, pour le coup, cette question de la justice réparatrice, dit-on, de l'autre côté de l'Atlantique, où ça existe depuis 25 ans. Cette femme que vous rencontrez, que vous filmez, alors j'aurais tellement aimé vous montrer les images, vous allez comprendre, je vais vous expliquer après l'extrait. Alors elle est restée dans le déni pendant 25 ou 30 ans après le viol qu'elle a subi quand elle était petite fille. Elle a entamé ce qu'elle appelle le grand chemin, c'est-à-dire plainte, enquête, procès et condamnation. Seulement un procès, ça ne suffit pas.
Oh, le procès. J'étais pas assise à côté du procureur. J'étais comme dans les bancs avec tout le monde. Et puis, lui, quand il allait devant pour dire qu'il était coupable, il était dos à moi. Donc, le juge lui demande, vous plaidez coupable ou non coupable? Coupable. Moi, j'ai pas pu voir son visage dire « je me sens coupable ». J'ai juste vu le derrière de son dos tout flétri, sans honneur, dire qu'il était coupable.
Son dos sans honneur. Alors ça, je vous avoue que s'il y a bien un mot que je retiendrai de ce film, c'est celui-ci. Et elle se met dos à votre caméra. Et elle mime ce dos sans honneur qui dit coupable, parce qu'on est dans la justice anglo-saxonne où il faut se déclarer coupable ou non coupable. La spécificité canadienne, c'est que pour aider une victime à se reconstruire, on va chercher un agresseur qui a commis un acte proche de celui que la victime a vécu, mais pas forcément son agresseur. Et vous en rencontrez tout un tas qui sont passés par ce processus-là.
En fait, il y a les deux systèmes
au
Canada. Il y a ceux qui souhaitent peuvent entamer une rencontre directe, comme celle que j'ai vécue. Et Sarah, d'ailleurs, en a fait une après avec son propre agresseur. Et il y a aussi la possibilité de mettre en place des rencontres avec d'autres agresseurs qui ont commis des crimes similaires. Et en fait, dans les deux cas, le but du jeu, c'est de créer cet espace de dialogue pour essayer de donner des clés pour comprendre, mais aussi pour sensibiliser, pour que du côté de l'agresseur en particulier, il y ait une réelle prise de conscience des conséquences de cet acte. Et effectivement, toutes les personnes que j'ai rencontrées au Canada, il y en a plusieurs.
Y compris des agresseurs
avec
qui vous avez
effectivement,
parlé.
Effectivement. Du côté des victimes, il y avait Sarah, il y avait Gilles aussi. Alors Gilles, c'était quelqu'un effectivement aussi qui avait été abusé dans son enfance par un ami très proche de sa famille. Et lui, en fait, il a trouvé la force d'aller jusqu'au tribunal parce qu'il a fait un cheminement de rencontre indirecte, parce qu'il a fait de la justice restaurative, mais avec un autre agresseur d'abord. Parce que lui, il ne se sentait pas le courage ou la force d'aller affronter son propre agresseur.
Et d'ailleurs, il le dit, grâce à ces rencontres, il était complètement sorti de l'emprise.
C'est ça.
Et peu importe ce qui allait se passer au procès, il était sorti de cette emprise. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on se place du point de vue de l'agresseur, parce que pour les Canadiens, l'idée est de réparer les deux, la victime et l'agresseur.
C'est
quand on se place du point de vue de l'agresseur qui entend et qui se voit hurler à au visage les conséquences et la destruction de l'état dans lequel est une personne qui a été abusée enfant, je me dis finalement ça boucle la boucle avec l'extrait que j'ai choisi, ce qu'on entend haut vous dire, qui dit, mais au fond, vous n'étiez pas une vraie personne. Moi, j'étais dans la toute-puissance et vous, vous n'étiez pas, toi, tu n'étais pas une personne.
Mais ça, c'est, ça fait partie des choses les plus dures hein, dans notre échange. C'est le fait qu'il me le dise clairement, en fait.
Tu n'étais pas une personne.
Que je n'étais rien. À ce moment-là, ce jour-là, pour lui, je n'étais rien. Je n'étais rien, j'étais qu'une chose qu'il pouvait utiliser.
Ouais.
Alors, effectivement, ça, c'est, c'est extrêmement difficile à entendre.
Oui, c'est extrêmement difficile à entendre. je vous la confirme, c'est mais, extrêmement difficile
mais
à entendre.
S'il est là et s'il est venu me voir, ouais. C'est pas pour me refaire revivre ça, c'est pour me dire qu'il n'est plus cette personne-là.
Et que vous êtes devenue une personne.
Et qu'il voit la personne que je suis. Mmh. Et qu'il a compris que même à l'époque, même s'il ne m'avait pas vue en tant que telle, j'étais déjà une personne. Et c'est ça que moi, je le remercie, parce que ce n'était pas du tout évident ni obligé qu'il décide de venir me voir. Il aurait pu très bien dire, c'est bon, moi j'étais en prison.
C'est très troublant et c'est très difficile de vous entendre remercier l'homme qui vous a violé quand vous étiez petite.
Je le remercie pas de m'avoir violé, je le remercie de venir responsabiliser sur son acte.
Ouais. Ouais.
Et dire qu'il est capable d'évoluer et faire autre chose.
Parce que vous comprenez, ce film, il renverse tous nos repères. On sort de là très troublé, plein de questionnements. Il y a quelqu'un, il y a une voix d'homme, on ne sait pas qui c'est, dans la voiture, au début du film, qui vous dit, Mayana, tu n'es pas là pour le sauver, lui. C'est avant votre première rencontre. Tu n'es pas là pour le sauver, lui. Il y a un moment, vous allez dire à votre sœur, je voudrais qu'il aille bien, parce que je me dis que s'il va bien, il ne recommencera pas.
C'est ça.
Et forcément, moralement, on est très perturbé par tout ça, Mayana Bidguin, quand on entend tout ça.
Ouais.
Vous comprenez que ça peut être inacceptable, tout ça est très compliqué à recevoir.
Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, ça trouble.
Oui.
Mais ça ne me dérange pas que vous soyez troublé. Ouais. Parce que ces questionnements-là, en fait, moi, je me les suis posés toute ma vie.
Ouais.
Et mon objectif, j'espère, il faut penser à l'après, il faut penser à la société qu'on reconstruit derrière. Et les personnes qui ont fait des actes, même qui ont fait des actes effroyables, si on leur laisse toujours cette étiquette de monstre, comment voulez-vous que d'eux-mêmes, ils aient envie de prouver qu'ils sont autre chose que ce monstre-là? Donc voilà, moi je pense qu'en fait, on a tous un rôle à jouer pour aussi leur reconstruction. Je sais que c'est difficile de m'écouter en train de dire ça, mais moi j'en suis absolument convaincue. Le problème, c'est que on m'a déjà reproché d'humaniser des criminels.
Oui.
Mais je les humanise pas. Ils sont humains, qu'on le veuille ou pas.
Oui.
Vous êtes humaine, je suis humaine, ils sont humains.
Ce sera le mot de la fin. Mille merci, parce qu'il faut du courage pour avoir fait ce film et pour venir en parler, toujours rendre public. D'ailleurs, le mot média, c'est intéressant parce que il y a l'idée de médiatiser, puis il y a cette médiatrice qui vous a accompagnée
tout
au long de cette démarche. Merci beaucoup, Mayana Bidguin. Donc, le film s'appelle Rencontre avec mon agresseur. Demain, sur France 5, 20h50, et il est suivi d'un débat. C'est la fin de l'Instant M.